Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Aujourd'hui c'est vendredi, aujourd'hui c'est podcasty et popopop se transforme en popopodcast. Et il va être question d'un podcast dédié à l'histoire du rap. Et je le dis tout de suite, pour ne pas avoir à y revenir après, personne n'est venu me demander mon avis. Ce qui est très dommage puisque chacun sait que j'ai un avis sur tout, à commencer par les choses sur lesquelles je n'ai aucune expertise, comme le rap par exemple. Encore que. Il serait bon de rappeler ici que Rapido, dont le nom n'évoque rien d'autre aux jeunes générations qu'un jeu à gratter, fut un magazine télévisuel du milieu des années 80 où il était beaucoup question de la scène émergente du rap. Je me souviens même avoir fait remarquer à quel point l'alexandrin classique se prêtait à la scansion rappeuse. Et je le prouve encore ici aujourd'hui avec cet extrait du Cid. Sous moi, donc cette troupe s'avance et porte sur le front une mâle assurance. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort. Nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Wesh yo. Alors,
ça passe.
Il y a du flow. Okay.
Bon, pop, podcast numéro 6, invité Pascal Sefran et Raphaël Dacruz pour parler du béton aux nuages, leur podcast produit par Move. C'est parti.
France Inter. Pop. Antoine de Gaulle.
Bonjour Pascal Sefran. Bonjour Raphaël Dacruz.
Bonjour.
Bonjour Antoine.
Bonjour messieurs. Alors bienvenue dans Pop Podcast. D'abord, est-ce que vous arrivez à prononcer correctement le nom de cette émission?
Pop Podcast.
Encore un.
Pop Podcast.
Bien.
Popopodcast.
Ouais, l'examen est passé. Premier saut d'obstacle réussi. Ensemble, nous avançons donc d'une case pour parler de votre podcast du béton au nuage, produit par nos amis du Move. Ce podcast, Raphaël Dacruz, vous l'avez conçu et écrit, et vous, Pascal, vous le racontez, et ça tombe bien puisque vous avez une voix qui s'adapte au rap, non?
J'espère, en tout cas, ça fait longtemps que je la donne pour cette culture. Voilà.
Et ça marche, vous êtes une courroie de transmission d'une certaine manière, comme nous le sommes tous à notre manière.
Exactement.
Ah, on est d'accord. Raphaël, pourquoi avez-vous tout de suite pensé à Pascal plutôt qu'à, je ne sais pas moi, Stéphane Bern?
Ah, grande question ça. Mm-hmm. Ça aurait été pas mal pour une émission sur l'histoire, ouais. En plus d'avoir Stéphane Bern. Hein. Non mais parce que Pascal depuis 15-20 ans maintenant, ça fait combien de temps?
C'est ça, ouais, depuis 2003.
Depuis 2003, voilà, c'est une des voix en fait à la radio pour le rap français. Avant c'était sur Génération 88.2 et puis ensuite c'est arrivé sur Move. Et donc c'est une voix qui incarne en fait le rap français. Mm-hmm. Parce qu'il accueille des gens dans ses émissions, parce qu'il transmet, comme vous le disiez justement Antoine. Donc c'était une évidence. Et puis c'est une voix qui incarne Move, tout simplement.
Et vous Pascal, vous pourriez faire un podcast secret d'histoire?
Je ne pense pas, je laisse ça à Stéphane Bern.
Non, ça pourrait se tenter.
Je te vois bien parler de Louis XVI, moi.
Why not? Mais non, je suis bien avec du béton au nuage.
Voilà. Je préfère du béton au nuage. Bon, du béton au nuage, c'est un titre qui sonne comme un morceau de Booba.
Je suis arrivé dans le champ, crasse la guerre dans mes morceaux. Si je me fais carner, pas besoin d'en faire une chanson. Mon stylo dans la terre, je t'aurai sans rançon. Ça sans rancune, tu bitume avec une plume.
Le bitume avec une plume. Vous vouliez mettre un peu du Duc de Boulby dans votre titre?
Ah bah, de toute façon, on parlait de rap français. Sans parler de Booba, c'est un peu compliqué évidemment, mais évidemment, j'avais pensé à ce titre-là du bitume avec une plume. Ouais. Mais non, j'ai bien aimé l'idée de béton au nuage parce que ça montrait l'idée d'ascension du rap français.
Ouais.
Et surtout, en plus, cette évolution musicale de quelque chose de très dur au départ, de très rappeux, vers quelque chose de beaucoup plus étiolé, de beaucoup plus aérien sur les dernières productions musicales du rap français. Donc je trouvais que ça
et consensuel.
Plus standardisé aussi, ouais. Clairement. Ouais. Donc oui, il y a une sorte de double sens dans ce titre-là, mais évidemment, le bitume avec une plume, c'était une inspiration. Oui.
Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de Booba hein, dans tous les titres. Je pense entre autres à la série de Canal Validé. Mm-hmm. Oui, je sais, c'est impressionnant, j'ai une énorme culture rap. Et vous savez que notre émission a aussi un titre qui vient du rap.
À base de pop.
Évidemment.
Évidemment.
Oui, Saint-Saëns Style de NTM.
Mais bien, bravo, à base de pop, Joe Star en live à ce micro, au micro de pop, il y a quelques temps. Alors Joe Star et NTM qui font évidemment partie d'un des épisodes du Béton au Nuage, ce podcast qui retrace la saga du rap français en 11 épisodes. Nous allons en parler dans ce numéro de pop podcast avec Charline Roux qui nous rejoindra juste après un morceau d'IAM à qui vous consacrez justement un de vos épisodes.
De l'âge de 10 ans, devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur blanche neige et les sept nains maintenant les nains. On dit que les blanches neige et tape éclate des types claquent dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent, avide mais ses poches sont parides. Alors on fait le caïd dans des booms qui sont désormais des soirées plus de sirop dessert. Petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ses cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de sept lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. De fringues et de thunes, de réputation de dur. Pour tout ça, il volerait la lune. Il collectionne les méfaits sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait, de donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames-dames de l'Afrique. Plus de cartables, il ne saurait pas quoi en faire. Il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier. Pensez au butin qu'il va amasser.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de sept lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
Les temps ont changé. Demain tout ira mieux, tu verras.
Les journalistes font des modes, la violence à l'école existait déjà. De mon temps, les rackets, les bastons, les dégâts, les coups de patte dans les pare-brises, des tirs des instituteurs, embrouille à coups de cutter. Mais en parler au journal tous les soirs, ça devient banal. S'imprime dans la rétine comme situation normale. Et si petit frère veut faire parler de lui, il réitère ce qu'il a vu avant 8h30. Merde, en 80 c'était des états de fait, mais là ces journalistes ont fait des états. Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant, juste surexposé à la pub aux actes violents. Pour des grandes gosses et de meilleurs citrons, la cible numéro 1, le terrain des produits de consommation. Et pour être sûr qu'ils s'en procurent, petit frère s'assure flingue à la ceinture.
On sait ce que tu es quand on voit ce que tu possèdes. Petit frère le sait et garde ce fait en tête. L'argent lui ouvrirait les portes sur un ciel azur aussi facilement que ses tournevis ouvrent celles des voitures. Le grand standing et tout ce dont il a envie, ça passe mieux quand tu portes un Giorgio Armani. Soucieux du regard des gens, malgré son jeune âge, petit frère fume pour paraître plus grand. Il voudrait prendre l'autoroute de la fortune et ne se rend pas compte qu'il pourrait y laisser des plumes. Il vient à peine de sortir de son œuf et déjà petit frère veut être plus gros que le bœuf.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de sept lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
Ayam, petit frère, et c'est sur ce son que vient d'entrer celle qui pèse dans le rap game. Enfin, le rap game de Picardie.
C'est une question de poids, en fait, uniquement, parce que pour ce qui est de la crédibilité, on n'y est pas.
Charline Roux, bonjour.
Bonjour.
Charline, est-ce que le rap Picard a évolué depuis Charline Roux et Camini? Une question que je pose évidemment à Raphaël et à Pascal.
Grosse scène, hein, le rap Picard.
Ouais.
Bah, NASA vient de Picardie, par exemple. Mm-hmm. NASA, qui est un rappeur important de ces dernières années, par exemple.
Ouais.
Voilà.
Donc elle a évolué dans le bon sens.
Ça évolue.
Ça bouge beaucoup. Charline?
Non, mais moi, de toute façon, c'est toujours les mêmes gens quand il est question de Picardie. C'est Camini et Jean-Pierre Pernaut. Donc il y a un moment.
Bah voilà, maintenant, vous pouvez dire NASA.
Merci.
Bon, Raphaël Dacruz, Pascal Seffran, nous venons d'écouter Ayam, ces pionniers du rap marseillais, qui vous consacrait le troisième épisode de votre podcast Du béton au nuage.
Petit frère est un des premiers morceaux qu'on a fait sur l'école du micro d'argent. Et en fait, c'est juste une réorientation sonore de par nos influences musicales américaines et notamment Mobb Deep. Hey yo, what's hell on earth? Who's next are gonna be first?
the project's front line, and the enemy is one time. I ain't gotta tell you, it's right in front of your eye.
On veut épurer, on veut vider. Ombre et Lumière est surchargée. L'école du micro d'argent va être complètement vide, musicale et vide. Tout simplement, nos goûts musicaux et l'influence des écoutes qu'on avait nous ont fait glisser dans cette direction-là.
Un bide à l'école du micro d'argent, tu as raison. Dans cet épisode, vous retracez toute l'ascension du rap marseillais avec des entretiens inédits d'Ayam, de Faflarage, d'Alonzo, des Psy 4 de la Rime ou encore de Sat de la Funky Family. Encore une fois, c'est un podcast plus difficile à monter que Secret d'Histoire. Comment avez-vous procédé pour avoir ces interviews?
Assez simplement, on a contacté ces différents artistes en leur expliquant un peu l'ambition, le leitmotiv de cette série documentaire. Et la plupart ont très vite accepté. Ça a été le cas par exemple de Sat, qui était un des premiers que j'ai interviewé, c'était l'été 2020. Et puis voilà, ça s'est fait de fil en aiguille comme ça. Mmh. Et puis je crois qu'il y a eu une sorte parfois de bouche à oreille entre les artistes aussi, parfois. Oui. Ah oui, tiens, il m'en a parlé, avec plaisir pour le faire, et donc ça s'est fait comme ça.
Mais est-ce que le format podcast vous a aidé pour le coup ? Plus que si c'était une émission sur une radio ou sur...
Ça facilite les choses, effectivement, puisque...
Pascal Sefran, par exemple.
Ça facilite les choses. C'est vrai qu'en, rien qu'en termes de dispositif, en fait, d'avoir qu'un micro branché, parfois, par exemple, pour Sat ou pour certains artistes de Marseille, je suis allé là-bas avec mon Agra, et puis, donc avec mon enregistreur, et puis, ça puisse faire beaucoup plus facilement, effectivement, s'il y avait une équipe technique complète avec trois caméras, un preneur de son, etc. Donc, effectivement, ça facilite les choses, oui.
Alors pardonnez-moi si j'étale un peu ma culture, mais peut-on dire que Marseille est la capitale du rap français? Parce qu'avec Ayam hier et aujourd'hui avec le collectif 13 organisé, je sais en disant ça que je lance un pavé dans la mare.
Je répondrai simplement
Pascal.
Non.
C'est parce que tu es un chauvin parisien, toi.
Est-ce que vous êtes parisien, non?
Un petit peu. Ouais. Mais clairement, pour moi, le rap marseillais a son importance, et depuis le début, mais pour moi, la capitale du rap en France, ça restera Paris et sa région, quoi, l'Île-de-France.
Pourquoi la capitale? Parce que c'est ici vraiment que ça a démarré, que ça s'est organisé.
Ouais, il y a beaucoup plus de groupes, beaucoup plus d'artistes, et on a mis beaucoup plus de styles aussi différents, que ce soit le cloud rap aujourd'hui avec PNL, ou MC Solar à l'époque, ou encore NTM, ou Lunatic, ou je peux en citer encore et encore et encore. Comparé à Ayam, il n'y a pas autant d'artistes, même si aujourd'hui c'est une véritable explosion, notamment grâce à 13 organisés, mais je laisserai faire.
Ouais, mais je pense que c'est aussi une question de proximité avec l'industrie musicale. On est dans un pays très centralisé aussi. Et ça a permis beaucoup plus de facilité à des groupes de se développer et d'avoir une porte d'accès, en fait, pour enregistrer des choses. À Marseille, il s'est passé énormément de choses, mais qui ont été moins médiatisées, moins exposées, mais qui ont aussi permis, en fait, de planter des graines, de semer des graines, qui ont vu émerger, tous les artistes qu'on connaît aujourd'hui, les Jul, les SCH, etc. En fait, ce sont des enfants, en fait, de ces années un peu compliquées pour le rap marseillais, mais qui montrent à quel point c'est une scène très vive.
Et puis, comme vous me le disiez tous les deux, hein, Pascal, Raphaël, juste avant l'antenne, Marseille, c'est vraiment des tocards.
Exactement, mais ça
et tout de suite, nous accueillons Shuriken et Chill.
Super.
Non, mais énormément de respect pour eux et j'adore leur musique, je suis fan totalement, mais personnellement, je pourrais pas dire que c'est la capitale du rap en France. Oui, impossible.
C'est la question se pose aussi pour le foot, j'imagine que ce sera la même réponse.
Ah, exactement.
On l'aura compris, vous êtes tous les deux. Vous êtes tous les deux des docteurs S-rap, mais du coup, avec ce podcast, est-ce que vous voulez vous adresser aux spécialistes, aux néophytes? Est-ce que vous avez pris garde à justement à ce que ce soit audible par tous?
C'était un peu le défi de ce podcast, c'est qu'il y a un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que les passionnés prennent un plaisir à avoir cette espèce de photographie large, ce panorama de l'histoire du rap en français, ou en tout cas des différents mouvements qui ont fait son histoire et qui ont donné les différentes directions musicales qu'il a pu connaître. Et en même temps, avoir une approche pédagogique pour que des personnes qui connaissent un peu, voire pas du tout ce genre musical, puissent comprendre un peu les clés de ce qui s'est passé en France. Pas de manière toujours chronologique, mais plus de comprendre un peu les enjeux musicaux, esthétiques, culturels qui a traversé ce genre musical qui est maintenant installé depuis 40 ans en France, quoi.
Pardonnez-moi, je vous mets un instant de côté, ma chère Charline, mais Pascal, Raphaël, nous sommes tous les trois, n'ayons pas peur des mots, des spécialistes du rap.
Ah, surtout vous, Antoine.
Vous, Raphaël, vous êtes un journaliste spécialisé. Et vous, Pascal, vous animez donc Move Rap Club sur Move. Et moi, par exemple, moi, je n'ai jamais dit breakdance, comme on disait à l'époque dans les médias.
On disait le Smurf.
Non, les journalistes disaient breakdance.
Mais il y a tout un lancement d'ailleurs dans le premier épisode où on entend des flashs.
L'époque de flashdance.
Flashdance, oui.
Bon, voilà, trois spécialistes.
Est-ce que sur ce podcast, en travaillant, vous avez vous aussi appris des choses? Est-ce que vous avez découvert des pans de l'histoire du rap que vous ne connaissiez pas? Alors même que vous êtes spécialiste, rappelons-le.
Alors, des pans de l'histoire, peut-être pas, mais peut-être des connexions, des influences de certains artistes avec le rap américain, ou simplement aussi des interconnexions, en fait, entre certains artistes. Parfois, oui, là, j'ai appris des choses, parce qu'à chaque fois, c'est des entretiens que j'essaie d'avoir pendant à peu près une heure avec chaque artiste. Ça permet, moi aussi, de m'aider à l'écriture, finalement, l'écriture de la voix off ensuite de Pascal. Donc, oui, là, ça a pu m'arriver d'apprendre des
comme
choses.
Comme quoi?
Eh bien, par exemple, j'ai appris que Diams, à ses tout débuts, elle fréquentait un rappeur qui s'appelle Coma, et donc qui fait partie d'un collectif parisien très important dans le rap français qui s'appelle la Secret Connection, et qui est un collectif dont le mot d'ordre c'est jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. C'est une sorte d'école de gardien du temple, j'ai envie de dire, même si c'est un peu réducteur. Et donc Diams, en fait, pendant très longtemps a traîné avec ce rappeur là et ça, par exemple, je l'ignorais. Et
non, c'est le savait.
Mais évidemment, parce que j'avais très mal fait mes devoirs parfois, c'est pour ça.
Moi, je le savais. Et vous, Pascal, qu'est-ce que vous avez appris en cours de route?
Moi, c'est vrai que je connaissais une bonne partie de l'histoire, des sujets et tout, mais c'est vrai qu'il y a plein de petites anecdotes difficiles à ressortir comme ça directement, ou qui vont pas forcément parler au public, mais moi ça va me parler, tous les connaisseurs de rap, un peu pour revenir aussi sur la question de tout à l'heure, ça parle vraiment à tout le monde, donc ceux qui ne connaissent absolument rien à cet univers, ça va forcément leur parler s'ils sont un petit peu intéressés pour apprendre un peu plus sur l'histoire du rap en France qui a déjà 40 ans d'histoire, donc maintenant je pense aussi qu'on fait ce podcast, mais il y a plein de petites infos, plein de petits détails par-ci par-là pour les passionnés également, qui sont bon à prendre, quoi, c'est toujours cool de savoir.
Peur que le rap subisse le sort du rock, que ça devienne un objet d'étude maintenant.
On
sérieux,
espère.
Qu'il subisse le bouquin partout.
Non, ça commence déjà un peu à devenir le cas. Il y a de plus en plus de productions, justement, de livres sur l'histoire, l'histoire
études,
du rap. C'est de plus en plus étudié à l'université. Bah, de toute façon, c'est cyclique, hein. Je veux dire, le rap, comme je le disais, existe en France depuis une quarantaine d'années. Mm-hmm. C'est encore plus vieux aux États-Unis. Donc, c'est certain, en fait, c'est devenu. C'est une musique non académique, comme le rock a pu l'être à ses débuts, ou comme d'autres, beaucoup de musique électronique également. Et ouais, faut, au bout d'un moment, en fait, par évolution démographique et par ancrage culturel, forcément, ça.
Et puis c'est devenu la musique la plus écoutée aujourd'hui.
Alors, en tout cas, c'est l'une des plus écoutées, c'est certain, c'est sûr. Avec l'arrivée du streaming en 2017, là, c'est devenu incontestable.
Il y a des chiffres, voilà.
Des chiffres parlent. Alors, avec vous et votre DeLorean, on passe de Assassin et MC Solar dans les années 80 à Nekfeu et Orelsan aujourd'hui. Comment l'avez-vous vu évoluer ce rap français, vous qui le scrutez depuis de si longues années?
Alors comment il a évolué? Plutôt bien, parce que voilà, il y a du rap partout maintenant, au-delà de la musique. Chaque marque qui veut mettre en avant un nouveau produit, souvent ils vont appeler un rappeur parce que c'est ce qui parle à la cible. Et aujourd'hui surtout, il y a du rap pour tous les goûts. Ça a toujours été plus ou moins le cas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment très 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 large. Certains artistes font de la pop, mais ils se disent rappeurs presque. Donc il y a du rap cloud, du rap hardcore,
de l'afro-trap,
le classique, il y a de l'afro-trap. Il y a du, ce qu'on appelle du rap boom bap également, qui est un rap un peu plus à l'ancienne, mais qui s'actualise quand même en 2021. Donc il y en a vraiment du rap pour, il y a du rap pour tout le monde, des rappeurs pour tout le monde. Il y a toutes sortes d'écritures, il y a le rap de la rue, il y a le rap de dealer aussi. Voilà, il y a tous les genres qui sont disponibles. C'est pas forcément, mais ils sont pas tous mis en avant. Voilà.
Alors votre série est très fouillée, très documentée, très complète. Pour autant, merci. Aucun mot sur ce rappeur français.
J'ai 40 ans, c'est 2x20, j'ai toutes mes dents, c'est pas en vain, j'ai donné un grand coup de balai avant d'avoir 40 balais.
Christophe Barbier,
DJ Boomer,
éditorialiste. T'as un oubli ou un oubli volontaire peut-être?
En fait, quand on fait de l'historiographie, parfois on fait des choix. Et voilà, on l'a rayé de l'histoire, de notre histoire. Voilà, ça, c'est comme ça.
Avec l'écharpe. Alors, du béton au nuage, c'est un podcast natif signé Move. 11 épisodes seront à retrouver sur toutes les plateformes et 3 sont déjà disponibles. Nous allons en reparler dans un instant. Mais avant ça, chaque vendredi dans Pop Podcast, Charline Roux, ici présente, nous livre une sélection de podcasts à glisser entre vos oreilles, chastes ou non. C'est l'heure du Popcast. Jingle.
Le Popcast.
Le Popcast.
Merci à l'équipe de 2 heures de perdu pour ce jingle gratuit. Je pense que la gratuité se paye, malheureusement. Je me comprends.
Savez-vous ce qu'est un TDAH, trouble déficit de l'attention, assorti ou non du H de l'hyperactivité, un trouble neurodéveloppemental qui affecte profondément le quotidien de ceux qui en souffrent, parce qu'ils ont entre autres symptômes en permanence un sentiment de décalage avec le monde dans lequel ils évoluent? Eh bien, une série de documentaires s'y intéresse au travers des parcours de Jeff, Sarah, Thomas, Ibrahim. Ils ont aujourd'hui entre 25 et 50 ans et ils ont été diagnostiqués TDAH à l'âge adulte. Les 3 épisodes de ce podcast, baptisé « À la recherche de l'attention », racontent donc Des enfances atypiques, un diagnostic souvent inattendu, un parcours médical compliqué et des vies d'adultes chamboulées. Voici par exemple dans le premier épisode, la découverte du trouble, le genre de situation que JF a eu à traverser.
Pour moi, c'est extrêmement difficile, par exemple, de travailler sur un projet qui va durer 4 ou 5 minutes, tu vois. Tu commences sur un projet, et puis après, hop, tu zappes, parce qu'il y a un autre projet qui t'appelle, et puis tu continues, et puis ce qui fait que tu finis rien. Alors, le coup du petit oiseau, mais ça fait rigoler. Mais tu imagines, tu es en départ de vacances, où tout le monde t'attend, et puis au moment où tu vois ça, c'est une histoire vraie en plus, hein. J'ai vu un petit bestiau comme ça, et puis bon. C'est quoi, je le connais pas. Donc, pendant un quart d'heure, j'étais sur Internet, je suis monté dans la chambre, en train de savoir. Non, tu vois, c'est typique.
Rien d'anecdotique ici, des témoignages auxquels s'ajoute celui du docteur Isabelle Lafont, psychiatre et responsable de la consultation TDAH de l'adulte du Centre des troubles du neurodéveloppement à Paris. Ça s'appelle « À la recherche de l'attention », c'est réalisé par Pierre et Mathieu Chaffanjon et c'est dispo sur toutes les plateformes.
Enfin, toutes les réponses aux pop questions que nous nous posons, Charline.
Que se passe-t-il quand nous dormons, quand dans Inception, comment survivre à une pandémie, comme dans Contagion, serons-nous tous bientôt génétiquement modifiés, comme dans Bienvenue à Gattaca, tels sont les sujet du podcast 7ème Science, dans lequel Perrine Kenson décortique avec un ou une scientifique la relation entre fiction et science à partir de films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Et dans un de mes épisodes préférés, la question posée est-il possible de recréer des dinosaures comme dans Jurassic Park ? Alors ne comptez pas sur moi pour spoiler la réponse, mais reprenons quand même la base dans le film. C'est à partir d'un moustique fossilisé dans de l'ambre que le clonage est effectué. Alors question préliminaire à Sylvie Crasquin qui est paléontologue. Eh bien, est-ce que l'ambre est un si bon conservateur que dans le film ?
Alors l'ambre, c'est quelque chose d'exceptionnel aussi, puisqu'en fait c'est de la résine qui coule de conifères sur le tronc, et donc cette résine en coulant, elle va attraper, capter tout ce qu'il y a sur le trajet de sa goutte vers le sol. Donc on va avoir une capture instantanée de tous les organismes qui vont être sur le trajet de cette goutte d'ambre. Donc là, effectivement, c'est une fossilisation instantanée, et donc on peut pas rêver mieux. Mais donc, ça ne va fossiliser que des toutes petites choses. Et bien évident qu'on va pas avoir des litres de sève qui vont tomber sur le sol, malheureusement pour nous, mais on peut trouver des choses absolument exceptionnelles.
Et pour les dinos, la suite, c'est dans 7ème sens, c'est à retrouver sur binge.audio et c'est en partenariat avec Sorbonne Université.
De la résine qui coule du conifère, mais ça veut dire que je produis de l'ambre ?
Bon, c'est pas possible, mais je n'irai pas recueillir.
Ça s'appelle. Et pour terminer, je vais nous proposer une exploration de la bande son de nos années 90.
Alors pas moi, mais la bande de Radio Cassette, soit Manu, Fanny, Olivier et Grégoire. Ils rembobinent leurs cassettes et vous racontent l'histoire inédite de leurs albums préférés. Saurez-vous deviner ici de quel groupe il s'agit ?
Tout commence à Los Angeles en 81. Le batteur Lars Ulrich passe une annonce dans The Recycler afin de trouver un guitariste. C'est James Hetfield qui se présente. Les deux décident de se lancer et de créer un groupe. Ils sont rejoints par Dave Mustaine à la guitare. Les débuts sont compliqués, mais la colonne vertébrale, c'est-à-dire le duo un peu improbable Ulrich-Hetfield, est déjà bien présent. Improbable parce que ces deux sont complètement et absolument différents.
Alors ?
Metallica.
Bien joué, c'est ouais. Évidemment de Metallica qu'il s'agit. Pour explorer le reste de la discographie des Beastie Boys à Björk en passant par Cabrel, si, c'est dans le podcast Radio Cassette.
Des cassettes sur lesquelles vous écoutiez les premières mixtapes de rap, Pascal Sefran ?
Oui, tout à fait.
Juste pour dater au Carbone 14.
Bien sûr, en 92, 93, 95, ça marchait fort à la cassette. Et
Rapatitude.
Voilà, Rapatitude, où il y avait beaucoup de...
Mixtape de DJ.
Voilà, puis ça des mixtapes tout simplement. On allait à Urban, ça s'appelle comment à Châtelet ?
Urban Music.
On allait acheter nos cassettes là-bas ou les vinyles, mais c'était plus pour les DJ les vinyles. Comme j'avais pas de platine, je prenais des cassettes.
Et vous, Raphaël Lacrosse, vous rembobiniez aussi avec le petit crayon ?
Ouais. Comme moi, je suis un tout petit peu plus jeune que Pascal. Moi, j'enregistrais beaucoup à la radio aussi, les morceaux qui passaient. Et du coup, bah oui, je rembobinais avec les crayons évidemment. Et là, tout de suite, on voit quel âge on a.
Des techniques qui se perdent. Oui, Pascal.
D'ailleurs, pour revenir vite fait sur le podcast du Béton et Nuages, il y a une partie où ça parle de Time Bomb, le collectif de Booba et tout ça à l'époque, et ça explique que justement ils sortaient pas vraiment de disques, qu'ils ont fait leur buzz via les freestyles à la radio, et quand on était jeunes, on attendait qu'une chose, que le freestyle commence pour faire rec, et voilà quoi.
Il n'y avait pas encore de mecs qui parlaient dessus, donc ça c'était chouette.
Voilà.
Il n'y a quand même rien de plus énervant quand on enregistrait la radio.
C'est vrai. On reparle dans un instant de béton et de nuages, des techniques quand même, cette histoire de crayons, de cassettes, tout ça, ça se perd, c'est très dommage. Bon, enfin bref, votre podcast n'est pas à écouter en cassette, mais sur toutes les plateformes, et nous allons en reparler juste après un morceau de Damso, Morose.
Je suis tellement loin, c'est parti pour quelques heures. insensé, sort dans ma tête de bouche, faut que je me teste, que je le vois, ok. Trop de tes questions brusques, beaucoup de pression, muscles, trop de stress, pas d'émotion. Agression à chaque réflexion, back, oppression à ta restriction, blague. Tu veux pas de moi, tu veux pas de nous, mais tu peux pas le dire en face. Ball tango, je te demande un minimum de respect. Je calme mes nerfs, joue un VER, tango. Je balance des phrases sur une compo. Je calme mes nerfs, j'en vais tango. Je balance des bras sur une compo. Moro. Moro. Donne-moi ton père, puis je t'appelle et ramène à l'hôtel comme si de rien n'était. Donne-moi ton père. Cherche l'amour dans la mort, t'arrêtes pas de causer du tort. Tu t'ouvres les veines mais encore, là t'ignores tous tes efforts. Tour à tour, les deux bords, se ferme et tu te fais des ports. S'il le faut, tu le fais, il est faux, tu le sais. Illico, tu le fais, silicone dans la fesse, unicone dans la presse. Une michetot dans la tête, jamais seul tu t'en sortiras. Il reste une place dans le corps, yeah. J'écris sur tout ce que je pense, et j'écris sur tout et son coq, yeah. Et sur ce que je risque d'apercevoir. J'aime quand je te perds, regarde d'avance. Quand c'est agir, chante ta fragrance. Tout c'est sévère, dans mon douce à la monnaie. T'aimes le bandit que je suis, t'aimes à la vue quand tu me suis. Compte sur mes économies, t'es ma p*** pour aujourd'hui. Tapis j'ai fait doubler la mise de bain. Bientôt j'abandonne le vice de pas loin. J'prends vice de mer. J'calme mes nerfs, j'vois VER, tango. J'balance des phrases sur une compo. J'calme mes nerfs, j'vois VER, tango. J'balance des phrases sur une compo. Moro.
Inter. Antoine Decaune. Pop, pop, pop.
On n'était pas encore en train de se dire, on est dans un mouvement culturel qui va basculer. On était dans la notion d'une nouveauté.
Au début des années 1990, un genre musical audacieux et novateur produit ses premiers albums en France.
Il y avait quelque chose qui se passait et qui était clairement un mouvement qui était en train de naître, en train de se structurer.
Dagger,
Smurf,
Breakdance,
Graffiti,
Zoulou,
Phénomène Hip-Hop.
Les premiers freestyle radio, nos premiers disques, c'est l'époque de la fondation du rap français.
Il y avait tout à faire, il fallait juste oser en fait.
Parce que quand on tape du poing sur la table, il y a comme ça qu'on nous écoute malheureusement quoi.
Béton au nuage, la saga du rap français en 11 épisodes.
Pascal Seffran, Raphaël Dacruz, baissons la tête tout en la remontant et en ouvrant nos oreilles. C'est pas évident, mais c'est ce que vous nous conseillez de faire avec votre podcast.
Coordonné quoi.
Du béton au nuage, surtout indépendant avec les oreilles. Quel est l'avis, qu'est-ce que vous avez reçu comme feedback de la scène rap française en écoutant cette série?
Eh ben, pour le moment, j'en ai pas eu moi.
Moi non plus.
Non,
moi non plus. Charline peut-être, en Picardie.
Camini.
Oui.
Je vais l'appeler, hein, si vous voulez. Mais c'est étonnant.
Comment est-ce que c'est perçu par les rappeurs d'être inscrits comme ça dans une histoire?
Ah, je pense que pour eux, par contre, ça c'est important, effectivement. Ouais. Qu'on dise que cette musique a une histoire, qu'elle a une légitimité. J'espère qu'en 2021, la plupart des gens comprennent que cette musique, en tout cas, a une légitimité dans le paysage musical français.
Plus personne n'en doute, non?
Bon, je pense qu'il y a toujours des personnes qui n'aimeront pas le rap et qui considèrent que c'est une sous-culture, comme disait un certain éditorialiste qui va se présenter à la présidentielle, visiblement. Donc, je pense qu'il y a des personnes de toute façon qui n'aimeront jamais le rap, et c'est pas grave, en fait, on s'adresse pas à eux. Ouais. Voilà. Mais je pense que c'est effectivement de toute façon important pour les rappeurs de que leur histoire soit racontée et que les choses soient précisées sur quelles étaient leurs intentions. Parce que pendant très longtemps, le rap, ça a été juste vu médiatiquement comme une sorte de vecteur sociologique. On invitait les rappeurs pour parler de la crise des banlieues, ce genre de choses. Non, en fait, les rappeurs, ce sont aussi des artistes, des gens qui ont des inspirations, qui ont des influences. Ce sont des gens créatifs et donc c'est important de rappeler en fait que avant tout ce sont ça et que c'est à travers le biais du rap justement qu'ils ont essayé d'exprimer quelque chose et qu'ils ont construit tous ensemble quelque chose.
Mais alors justement, on aura tous remarqué que la parole de certains se fait rare entre peur qu'elle soit dévoyée, cette parole, ou pour d'autres joue aussi le fait qu'ils n'ont pas vraiment besoin des médias en fait pour arriver où ils veulent aller. Est-ce que vous avez essuyé beaucoup de refus?
Pas tant que ça. Sur les trois premiers épisodes, pas tant que ça. En fait, on a essuyé un refus, qui était par exemple celui de Dali, donc l'ancien partenaire de Booba au sein de Lunatic. Comme en fait, pour lui, cette histoire de Lunatic, c'est derrière lui, il a envie d'aller de l'avant, il n'a pas forcément envie d'en parler, ce que je peux absolument comprendre, et c'est pas un souci là-dessus. Et après, c'était parfois des histoires de concordance, d'agenda. Ouais. Par exemple, on a personne d'NTM pour... Bon, en tout cas d'artistes, que ce soit Kulchen ou Joe Star, qui ont pu répondre parce que en fait ils étaient pris par plein de choses. C'est pour ça qu'on a un journaliste qui est venu parler d'eux. Mais sinon, non, on a eu assez peu de refus. Et là, pour la production des prochains épisodes, pour le moment, ça se passe plutôt bien aussi.
Et à l'inverse, est-ce que certains ont joué des coudes pour être dans ce panthéon? Non,
pour le moment, non. Je pense que peut-être après 4, 5, 6 épisodes, quand évidemment le Du Béton au Nuage sera devenu une référence dans l'histoire du podcast du rap, sur le rap, peut-être. Mais là, pour le moment,
vous appeler.
Ouais, je pense que là, je pense que clairement, et Christophe Verbier aussi.
Et Pascal me disait avant l'émission qu'il avait eu plein de coups de fil de Marseillais.
Ça a vibré depuis tout à l'heure.
Ça sonne. À travers ce podcast Du Béton au Nuage, vous racontez 40 ans d'histoire du rap français avec des témoignages et des archives. Comment est-ce que vous avez fait le tri dans ces montagnes, j'imagine, de documents, d'archives, de souvenirs? Comment est-ce qu'on organise un truc pareil?
L'idée, c'était que les archives viennent illustrer ce que m'avait raconté, ce que m'ont raconté les différents rappeurs, artistes que j'ai pu rencontrer justement. C'était très important, notamment d'avoir des archives sur pour montrer à quel point, à un moment donné, le rap était aussi un reflet de ce qui se passait en France. Y a tout un passage, par exemple, dans l'épisode 1 sur comment en fait le rap d'NTM ça concordait avec la médiatisation des émeutes. Et donc effectivement, il a fallu aller choisir dans les reportages d'époque des phrases qui étaient assez illustratrice en fait de cette crise des banlieues et comment c'était traité d'une manière par les médias grand public français, notamment la télévision, et comment justement en réponse à ça des rappeurs comme Son NTM ont essayé justement de montrer le point de vue d'habitants de banlieue en fait.
Pascal, vous qui êtes le senior dans l'histoire,
vous avez bien compris la dynamique.
Ben oui, bien sûr. Votre premier souvenir de rap? Votre premier contact avec le rap?
Mon premier contact avec le rap, ça doit être peut-être Benebi, sinon MC Solar, Qui sème le vent récolte le tempo. Ça doit être le premier album que j'ai dû acheter, je pense.
Benebi,
il travaille à l'aéroport, un des artistes travaille à l'aéroport de Belgique, je crois, et il s'en sort très bien. Enfin, c'est ce qu'on disait à l'époque, je sais pas où ça en est pour lui aujourd'hui.
Alors, nous parlions de Marseille, hein, en particulier tous les deux, en début d'émission.
Non, mais j'adore le rap marseillais, mais...
Tu en as ennuis maintenant.
Je vais avoir des problèmes.
Vous savez, moi, tant que je peux aider, avec Ayam, Marseille qui vient de rendre un dernier hommage à Bernard Tapie, Tapie qui fut lui aussi rappeur avec Doc Gineco.
Dis Bruno, à ton ami, qu'est-ce qu'on vient foutre ici?
Engraisser des banquiers qui sur nos vies font des crédits.
Dis Bruno, qu'est-ce qu'on peut foutre ici?
Balancer la vérité, risquer nos vies.
Sur quel genre de curiosité êtes-vous tombé en préparant cette série?
J'ai pas de curiosité en tête là.
Non. Ça c'est pas mal ça.
Ouais, ça c'était pas mal ça.
Techniquement, on est d'accord qu'il rappe pas le tapis.
Ton cover.
Ouais,
il a un petit flow quoi.
Ouais, c'est ça, il fait du slam presque.
C'est ça. Mais comme ça reste Bernard Tapie, c'était quand même marquant pour l'époque. Et puis les paroles aussi, donc voilà.
Alors c'est un podcast qui est, disons-le, un très très bien produit. Merci. Vous avez une certaine pression avec un casting aussi soucieux des sons et des prods. Vous avez à l'œil quand même sur cette histoire.
Bah ouais, bien sûr. Ouais. Non, évidemment, on était soucieux de la qualité aussi globale du rendu, quoi. Et c'est pour ça que ça a été très important pour nous d'avoir un réalisateur qui était Eric Lancien, qui fait partie du pôle des réalisateurs de Radio France, et qui nous a beaucoup aidé justement pour rendre tout ça beaucoup plus dynamique et fluide. Parce que moi, une fois que j'avais toute cette matière, vous le disiez tout à l'heure, il fallait faire le tri avec les archives, mais aussi avec toutes les interviews que j'avais, tous les dérushs que j'avais, les extraits sonores insérés. Donc il fallait être évidemment très soucieux du rendu final, en fait, pour que ce soit à la hauteur de l'ambition du projet, quoi.
Et alors, contrairement à moi qui suis toujours à l'affût de toute modernité,
vous n'avez pas cédé aux sirènes de l'autotune. Pourquoi?
J'avoue, on aurait dû le mettre sous autotune, Pascal, pour voir ce que ça donnait. Ça aurait été pas mal.
Mais ça va venir dans les futurs numéros.
Voilà. Quand on parlera de PNL, on le mettra sous autotune. Voilà.
Vous êtes vraiment pas du tout obligé, hein. C'est pas
Dans l'épisode numéro 1, retour aux fondamentaux, vous évoquez l'âge pionnier des années 80.
Au milieu des années 1980, un DJ en particulier va porter cette musique du bout de ses doigts posée sur des platines. Son nom, Dynasty.
J'avais envie de changer de tempo, alors je suis descendu dans le
métro. Dynasty a grandi à Bagneux, banlieue du sud de Paris. Passionné de soul et de funk à l'adolescence, il commence à s'intéresser au rôle du DJ et découvre le hip-hop lors d'un voyage à San Francisco à la fin des années 1970. À son retour en France, les sacs remplis de disques, il se met à mixer sur des radios libres, alors que le rap s'affirme en devenant de plus en plus électronique.
Et c'est là où j'ai commencé à toucher aux platines, véritablement, et puis à me sentir bien dans la transmission.
Dynastique, on écoutait là. Alors, sans ces pionniers des années 80, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de rap contemporain?
Je ne pense pas, si je peux me permettre de répondre, c'est eux qui étaient là, donc voilà, mais comme à chaque génération, mais le mouvement était tellement fort, je pense que toute la jeunesse de France mangeait ce rap qui venait des États-Unis, et si ça n'avait pas été Dynasty, ça aurait été un autre. Et après, gros respect bien sûr pour Dynasty, parce que ça a été lui, et il a fait ce qu'il fallait faire, mais c'était évident que ça allait arriver en France, quoi.
Trois épisodes sont déjà dispo. 80-90, Planète Mars. La suite, ce sera quoi?
La suite, ce sera donc les épisodes 4-5-6 sur lesquels nous sommes en train de travailler. On va parler de l'âge d'or, en tout cas commercial, le premier âge d'or du rap français entre la fin des années 90 et le début des années 2000, avec des collectifs comme le Sector A, comme BOSS for My People, qui ont confondé les membres d'NTM, les débuts de la mafia Quinfri également. On va parler aussi de toute une scène dite alternative qui a émergé au début des années 2000 avec des groupes comme La Caution, TTC, qui ont amené une autre manière de dire qu'on pouvait faire du rap en français. Et puis l'épisode 6, on va s'intéresser à la naissance des vrais rap superstars. Là, d'un seul coup, on n'avait plus de collectif, mais vraiment des artistes en solo qui sont devenus des têtes de gondole. Évidemment, ce sera Booba, Rof, Diams, Soprano, La Fouine, Cynique, toutes ces personnes qui, dans les années 2000, ont un peu porté sur leurs épaules le rap français, alors qu'en tout cas commercialement, alors qu'on était en pleine crise de l'industrie du disque aussi, quoi.
Raphaël Dacruz, Pascal Seffran, Du béton au nuage. Les trois premiers épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes, avec une petite spéciale dédicace évidemment à nos amis marseillais qui nous écoutent de la part de Pascal. Pop break dans ce pop podcast. C'est l'heure des pop news, des pop news spéciales popcast évidemment.
Hélène Pompeo n'est pas que le docteur Meredith Grey, elle est aussi l'animatrice d'un podcast baptisé Tell Me, et c'est l'occasion pour elle aussi de tout dire, notamment tout dire sur Grey's Anatomy en fait. Et dans l'un des derniers épisodes du podcast, elle est revenue sur sa rencontre houleuse avec celui qui était venu réaliser un épisode de la saison 12 de cette série médicale, j'ai nommé Denzel Washington.
Denzel went ham on my He was like, I'm the director, don't you tell him what to do. And I was like, listen, this is my show. This is my set. Who are you telling? Like, you barely know where the bathroom is.
Par souci de clarté pour les non-anglophones, Antoine et moi allons vous rejouer la scène en VF. Antoine, vous êtes Denzel, je serai donc la Pompeo, à vous.
Ok. Oh, je suis le réalisateur, ne me dis pas ce que je dois faire.
Hein. Oh, dis donc, mon coquin, c'est ma série, mon plateau, pour qui tu te prends? Tu sais même pas où sont les toilettes. Fin de la représentation, et pour d'autres anecdotes croustifondantes, en VO, écoutez Tell Me, le podcast de cette caïra d'Hélène Pompeo. Et on s'intéresse aux classiques, classiques du podcast et classiques de la musique avec la série Song Exploder, un programme dans lequel des musiciens dissèquent leurs chansons et l'expliquent pas à pas, comme ici les Sparks.
Ron had played me the song just on this upright piano, and I thought it was really striking. It sounded very classical, like a classical melody.
La suite de la genèse de This Town Ain't Big Enough for the Both of Us par les frères Mel et bien d'autres titres et bien d'autres artistes, c'est sur songexplodeur.net.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Mais ouais, mais c'est moi.
Denzel Washington.
Mais oui, bravo. Enfin, la VF.
Denzel.
Merci, Chantal. <Denzel, ouais. rire> Pascal Sefranc, Raphaël Dacruz, on continue à parler de rap et de podcast dans la suite de Pop Podcast. Juste après, Billy Wallace, c'est un titre qui sonne comme un message politique pour celui qui fut candidat à la Maison Blanche, Kanye West.
You need something unexpected. Stump from a weapon. You ask him to feel protected and still feel protected. Just one time for the wreck it. Just one time for the wreck it. Don't agree with the message. Don't agree with the methods. Don't let the lifestyle drag you down. Who knows when was the last time you felt the love? One last sparkle. What the hell you do waking me up at 5:30? Why the hell are you worried? Play something that is very, very vibe worthy. I don't want my mind alerting. People saying tweeting gonna make you die early. How about have my heart hurting? Hold it all aside, that can make you die early. Gonna get your best attorney. Something's there, feel it when I heard it. Just release the spirit, let it flow though. How do you leaving out with one leg like Lojo? Let me to the cross with long nails like Coco. Free throat coat for the throat goats. Even if I gotta do it solo. Even if I gotta do it with no promo. I ain't got my point across till we finally get across and pass the point. So there's a couple things that I gotta quote. Don't involve yourself in things you don't have to know. I ain't never questioned what you was asking for. I give you every single thing you was asking for. I don't understand how anybody could ask for more. Got a list of even more, I just laugh it off. I be going through things I had to roll. Celebrity drama that only Brad would know. Too many family secrets, somebody passing notes. Things I cried about I find laughable. Little baby Jesus ain't laughing, no. Don't involve yourself in things that ain't have to know. The big man upstairs ain't laughing, no. Don't involve yourself in things that ain't have to know.
Now here we are.
Don't let the lifestyle drag you down. Who knows when was the last time you felt the love? One last sparkle to follow in my life.
Billy What I Say, Kanye West, cet extrait de son album Donda. Vous écoutez Pop Podcast, la seule émission de radio sur les podcasts que vous pouvez écouter à la radio et en podcast. Oh, mais c'est Thomas Biassi, alias Cosmo Flash, mais qui fait son entrée masqué dans notre studio. Bonjour Cosmo Flash.
Bonjour Antoine, bonjour tout le monde.
C'est obligé le slip sur les collants?
Ah oui, moment, oui, bah non. Pas... Oui, okay. Oui. Ça, oui.
Bonjour et allez-y.
Le pire lancement de l'histoire du lancement.
Allez, go.
Traînez vos guêtres voilà. Cette semaine, ouais, mon cher Cosmo Flash.
Mon slip rouge. J'ai atterri dans le quartier de Brooklyn, à New York, et j'ai écouté Not Past It, l'un des derniers podcasts du studio Gimlet Media.
Vous avez le titre québécois du podcast?
Alors oui,
c'est important. Oui.
On pourrait traduire ce titre par ne pas arriver à passer à autre chose. Il y a pas vraiment de. Et vous allez l'entendre. Dès qu'on commence à écouter ce podcast, on voit tout le monde un peu autour de nous, un peu différemment.
Ne serait-ce pas le 800 millième podcast de développement personnel qui nous apprend au final à prendre soin de nous en mangeant des figues tout en faisant du yoga pour voir le monde différemment, comme vous dites?
Alors non, c'est pas exactement ça le concept. Chaque semaine, la productrice Simone Polanen se pose la question suivante. Comment est-on arrivé là? Comment, après des milliers d'années d'histoire, en est-on arrivé dans cette version du monde? Et en fait, au lieu de raconter l'histoire comme un récit, elle prend plutôt le parti d'analyser l'effet domino provoqué par un événement arrivé le jour même de la publication du podcast, en décortiquant chaque étape qui mène jusqu'à maintenant, en fait. Et donc ce format lui permet de tracer des traits historiques assez farfelus, comme par exemple dans le dernier épisode.
On today's episode, we're going back 123 years ago this week to October 1st, 1898, the beginning of the end of the Spanish-American War. And we'll snake our way through history to the creation of a modern-day sex icon.
Alors, hein, vous avez bien écouté, on parle d'un sex symbole, et je vous le donne en mille, Antoine, le sex symbole dans toutes les questions. Et ben, en fait, vous le connaissez.
C'est bon. Accueillons maintenant notre prochaine invitée, j'ai nommé la délicieuse Berthe. Vous venez d'écrire un livre, disons, provoquant.
À l'occasion de la Saint-Valentin, je me devais d'écrire un livre sur la séduction.
Les deux font la paire, si je puis dire.
Vous l'enlevez de la bouche, Antoine.
Un ouvrage qu'on dévore. Je suis à croquer.
Vous faites quoi, Antoine, pour la Saint-Valentin ?
Quelle comédienne ! Appelle-moi quand tu voudras faire de la pub.
Je ne fais pas de pub.
Ah, vous avez raison. Ça pourrait nuire à votre carrière.
Voilà, donc le sexe symbole. Eh oui, certains et certaines l'ont reconnu, c'est bien. Miss Vert, le M&M's Vert, ici interviewé par Antoine Decaune. Non,
mais alors attendez, Cosmo, vous préférez me réduire à l'interview d'une cacahuète plutôt que de citer mes interviews historiques de, je sais pas moi, Dylan McCartney et Eddie Merckx. Bon, reprenez s'il vous plaît.
Et donc le podcast arrive à tracer une ligne directe entre la guerre hispano-américaine de 1898 et le M&M's Vert qui, au fil des années, est devenu une icône lesbienne et trans sur Internet. Alors comment en est-on arrivé là ?
Mais oui, comment en est-on arrivé là ?
Eh bien c'est très simple, on va faire tomber les trois premiers dominos ensemble. La guerre de 1898 donne aux États-Unis le contrôle des territoires du Golfe du Mexique et des plantations de sucre de la région. Cela permet au confiseur Milton Hershey d'étendre son empire, et à la fin des années 30, il est approché par un certain Forrest Mars, l'inventeur de la barre chocolatée, qui le convainc de produire des dragées au chocolat. Malheureusement, la relation ne durera pas. Mars rachète les parts de Hershey et lance dans les années 50 une campagne de pub redoutable.
So they come up with this phrase, melts in your mouth, not in your hand. And another thing that they sort of contribute to this ad campaign is they create these M&M cartoon characters. So they have a Mr. Plain and a Mr. Peanut.
Voilà, donc le slogan, c'est donc fond dans la bouche et pas dans les mains. Et la campagne introduit donc des nouveaux petits personnages à l'effigie des dragées M&M's. Les deux personnages vont contribuer au succès des campagnes M&M's tout au long du XXe siècle. Et à l'orée des années 90, l'agence BBDO modernise ses personnages et en ajoute quelques-uns, dont le vert.
We wanted her to be a confident, strong, sexy. So we said, let's let her own it. You know, let's let her be sexy.
Donc là, c'est Susan Cradle qui part, c'était la directrice créative, et elle explique qu'elle voulait faire du M&M's Vert une femme forte, sexy et confiante.
Un petit peu comme moi, quoi.
Exactement. Je vous passe les détails, hein, mais cette nouvelle campagne va aussi être un énorme succès, et Miss Vert va devenir une sorte d'obsession hein, sur Internet. En 2015, Miss Vert publie une photo d'elle et de Miss Marron, l'autre M&M's féminin, sur le compte Twitter de M&M's, avec la légende « Il est rare que Madame Marron et moi puissions passer du temps ensemble sans que des personnages hauts en couleur ne débarquent ». Et il n'en faut pas plus aux internautes pour se rendre compte que Miss Vert est en couple avec Miss Marron. Et ça va même plus loin, les fans de la marque vont remarquer que jusqu'à la fin des années 80, le M&M's Vert est un homme. Miss Vert serait donc lesbienne et trans. Bref, de quoi devenir une icône LGBT sur Internet. Mais je n'en dirai pas plus, je vous recommande très fortement ce podcast, c'est très bien produit, très bien écrit, et M&M's mis à part, on apprend tout un tas d'anecdotes historiques à ressortir en soirée mondaine, sur la création des émojis, sur le festival de Woodstock, ou même les Illuminati.
Merci Cosmo Flash, merci aussi Thomas Bassi, et merci à tous les deux, même, je ne sais pas si vous m'avez...
Il y a la Choupa Choups Cola qui vous attend pour une interview.
Merci Charline, alors, je ne sais pas si vous m'avez donné envie d'écouter ce podcast, mais vous m'avez donné envie de manger des M&M's. Raphaël Lacrouze, la café franc. Est-ce que Cosmo Flash me t'as donné envie d'écouter ce podcast?
Me donne envie de manger des M&M's.
On finit l'émission comme ça tous ensemble. Allez, c'est parti.
Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Raphaël Lacrouze, c'est à vous de nous recommander un podcast. Et je crois savoir qu'il s'agit de DJ Mehdi.
C'est dur, hein, c'est dur avec les cacahuètes dans la bouche.
Ce brillant producteur qui nous a quittés.
Oui, il y a 10 ans de ça, exactement. On a commémoré les 10 ans de sa disparition, là, en septembre. Et effectivement, Johan, alors je suis désolé, je vais essayer de pas...
Chiaramonte.
Chiaramonte, merci beaucoup. Heureusement que vous êtes là.
Bravo, Charles.
Heureusement que vous êtes là. Donc, il a été à la rencontre de plusieurs personnes qui ont travaillé avec lui, qui l'ont rencontré. Ça va de Manuquet, qui était un des fondateurs de la mafia Quinfri, qui faisait partie du groupe Différents Types, qu'on a interviewé d'ailleurs dans du béton en nuage, pardon. À Pedro Winter, le patron du label Headbanger. Arnaud Fraisse, qui travaille chez Move maintenant et qui est un ancien journaliste et donc qui avait également rencontré Didier Média à l'époque, et donc de revenir voilà en une heure sur son parcours avec beaucoup d'extraits sonores pour expliquer en fait pourquoi Didier Média a été un musicien aussi important et dans le rap français et dans la musique électronique. Donc c'est un très beau documentaire en hommage au talent de ce regretté DJ Mehdi.
Ça s'appelle Le Son du Prince et ça donne ça.
10 ans après sa disparition tragique en septembre 2011, je décide d'aller pour ce podcast à la rencontre de ses compagnons d'aventure. Pour essayer de comprendre comment ce fan des Beatles et de Timbaland, de Metallica et Romain Tony a pu traverser le rap français, imaginer le son des quartiers populaires, mettre ses deux pieds dans la French Touch, retourner les clubs et les salles du monde entier, tout ça sans jamais trahir le petit banlieusard qu'il était à 14 ans. Ensemble, nous avons essayé de retourner aux racines et de raconter l'évolution du son DJ Mehdi, le son du prince.
Alors nous parlions de DJ Mehdi, nous parlions de ses nombreuses productions, je vous propose d'en écouter une justement, c'est Les Princes de la Ville avec le 113.
Dans mes écrits, normal pour un mec de Vitry. Sur ma feuille, le ghetto, je retranscris. Zigzagant entre le mal et les délits. Je me débrouillard une fois sorti du lit. Au chômage, pourtant jeune et ambitieux. C'est pour nous qu'ils ont créé la NPE. Mais y'a une queue d'un kilomètre pour gagner 3 pépés. Je peux me permettre qu'ils aillent se faire mettre. Alors les bacheliers s'engagent à l'armée. Et pour le petit smicard, y'a de quoi s'alarmer. Les bras quoi m'armer. Tout ça y'en a marmé. Un jour les keufs viennent te ramener. Vitrine 9-4 de ma ville, je veux être le prince. Je veux pas te cacher, monsieur le maire est une pince. Des promesses y'a pas à dire, y'en a toujours. Rénover les bâtiments, on attend toujours. Les faux monuments à 100 bars, nous on s'en fout. Soi-disant députés en costard, ils sont fous. Comme tous citoyens, je suis censé aller voter. Histoire de dire que j'existe dans leur communauté. C'est impossible, quand je vois des frères menottés. Au déboire à Benoît, c'est pas une nouveauté. À la suite, je félicite les gros bonnets l'illicite. Pas d'ingénieurs dans mon équipe. On est jeunes et ambitieux, parfois vicieux. Où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux.
Ambitieux,
parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux.
C'est quand tu veux.
On vit en HLM les uns sur les autres. Et les superposés, j'ai rien connu d'autre. On a la rage, mais comment rester sage. On vit en marge, en gros on est tous barges. Souvent les huissiers à ta porte font éruption. Si tu payes pas ton loyer, c'est l'expulsion. Val-de-Marne, pourcentage d'immigration. Aussi élevé que tous mes frères qui mettent en prison. Pour se payer un avocat, pour plein de Pascal. Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences. On n'a jamais eu de chance, les circonstances fort qu'à pénitence. T'as pas réglé tes amendes, le trésor public t'a coincé. Oublie les vacances d'été, des TIG. Surtout on met la pression. Ta boîte aux lettres est pleine de rappels et d'assignations.
Ouais mec,
ouais mec. C'est ça notre vie, code 94-400 Vitry. Vitry. Maman lui a ses qualités et ses défauts. Peuplé d'artistes et de sportifs de haut niveau. D'escrocs dans les halls jusqu'aux bureaux municipaux. Gros, tous vitriaux,
vitriaux.
Même si c'est pas tous les jours facile, je veux être le prince de ma ville.
On est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux.
Quand tu veux,
ambitieux, parfois vicieux. Tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux,
quand tu veux.
Dans Pop Podcast sur France Inter, c'était Les Princes de la Ville, un morceau produit par DJ Mehdi. Merci Raphaël Dacruz.
Merci Antoine.
Merci Pascal Seffran.
Merci à vous.
Du béton au nuage, c'est l'histoire du rap français à découvrir à travers 11 épisodes et vous pouvez déjà écouter les 3 premiers. Merci Charline.
Merci à vous tous.
Et à lundi. Et merci à toute l'équipe de Pop Pop et à Pauline Laverdure qui était à la technique aujourd'hui. Lundi dans Pop Pop, Marina Hans et Serge Bagdasarian viennent nous rendre visite pour nous présenter leur comédie musicale. Mais quelle comédie! Mais avant lundi, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop.